comme tous ceux qui dans le monde entier nous écoutent sur Internet, vous aussi, écoutez Music Box sur le net. Notre mot de passe, musicboxtv.com.
Dites-le à vos amis.
Musicboxtv.com.
Jean-Luc Coatalem, sur les traces de Paul Gauguin aux éditions Grasset. Jean-Luc Coatalem, est-ce que c'est votre enfance en Polynésie? Est-ce que c'est l'amour des Vahinés qui vous a poussé à vous pencher sur Paul Gauguin?
Je dirais les deux, mon général, mais plus probablement quand même mon enfance en Polynésie qui m'a évidemment ébloui comme toute enfance. Je n'ai pas de souvenir qui remonte au-delà de cette enfance en Polynésie, donc j'ai l'impression d'être un peu moi-même un peu tahitien. Mais c'est surtout l'intérêt pour un peintre de l'envergure de Paul Gauguin, un peintre qui est d'ailleurs pas seulement peintre, qui est aussi sculpteur, céramiste, graveur, écrivain. Il a écrit un certain nombre de livres et de textes. Bref, pour un artiste complet, étonnamment moderne, et qui n'a pas hésité en 1890, 1891, à quitter ce monde européen, ce monde industriel, ce monde marqué par le christianisme, ce monde marqué par la morale, comme toute société finalement, pour essayer de trouver ailleurs, autre part, une autre vie.
Paul Gauguin, donc, partir en Polynésie. En France, il quitte un mouvement qui est le mouvement impressionniste dans lequel il n'y est pas, finalement. Il est ami avec Van Gogh, il est ami avec les impressionnistes, mais sa peinture va ailleurs. Une peinture plus, primitive, peut-être.
Oui, alors, il fait quand même partie un peu de la mouvance impressionniste et néo-impressionniste, puisqu'il participe à deux expositions impressionnistes à Paris. L'impressionnisme, ensuite, se divise en pointillisme, cette peinture à la Seurat, par exemple, et lui, il s'en moque un peu. Il dit, on va pas continuer à peindre avec des petits pois, comme il dit, non pas des petits points, mais des petits pois. Et il est en quête d'autre chose, d'une peinture un peu plus ouverte, un peu plus peut-être aussi synthétique, un peu plus subjective, un peu plus décorative. Gauguin va inventer ce qu'on appellera le symbolisme, c'est-à-dire une peinture qui est aussi à l'écoute de soi, du monde et de soi. Vous savez, la photographie à l'époque commence à se répandre et le souci de la réalité, de la reproduction de la réalité finalement est évacué par la photographie. La photographie va s'en charger. Donc les peintres n'ont plus besoin d'être aussi précis, aussi arithmétiques dans leur construction. Ils peuvent s'ouvrir à quelque chose de plus intérieur, une sorte de rêverie. Et je crois, il est de notoriété maintenant de dire que Paul Gauguin est un peintre de l'imaginaire, c'est-à-dire que même la Polynésie qu'il peint, qu'il dessine, a sa part d'imaginaire. Elle n'est pas tout à fait réelle, et d'ailleurs beaucoup de Polynésiens, encore aujourd'hui, ne s'y reconnaissent pas du tout.
Alors, est-ce que l'artiste ne va pas être cannibalisé, ne va pas cannibaliser l'homme finalement, parce qu'il abandonne quand même femme et enfant
Oui, c'est une très bonne question. C'est toujours cette frontière entre cette vocation irraisonnée, irraisonnable qu'a eu Paul Gauguin, qui à 35 ans décide d'être le plus grand peintre du monde, et il va quasiment le devenir, et puis une vie personnelle, somme toute, sacrifiée. Et il est père de famille, marié, 5 enfants, il a jusqu'à l'âge de 35 ans une position à la bourse, il travaille comme employé pour une banque, et tout ça, il va laisser ça derrière lui. Malgré lui, parfois, puisque son épouse elle-même, quand on regarde la correspondance entre elle et entre Mette, elle s'appelle Mette et Paul, on sent bien que Mette dit « mais ça n'est pas possible, tu ne peux pas vivre avec nous. D'abord, tu ne parles pas le danois, ensuite tu n'as pas de métier, et puis comment faire pour élever 5 enfants à Copenhague si tu n'as pas d'argent? Comment faire ?» Et donc, elle a une façon de lui dire aussi « c'est toi qui t'en vas, mais je ne suis pas mécontente que tu partes. » Et lui va effectivement... Il y aura un retour à un moment donné au Danemark, mais il va quasiment abandonner sa famille, ou plus exactement, sa famille va le lâcher aussi. Il va sacrifier son destin d'artiste à son destin personnel. Mais c'est à cela qu'on reconnaît les génies, mais le prix est lourd à payer.
Alors il s'installe en Polynésie, aux Marquises, il bâtit, il construit sa maison et finalement de la peinture il découvre aussi la sculpture.
Alors il a toujours beaucoup aimé la sculpture et la céramique parce qu'il pense que la sculpture du bois, la poterie sont des arts primitifs, premiers, dans lesquels il y a quelque chose de fondamental et lui est à la recherche de cette fondamentalité des choses. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs il quitte la Polynésie, il quitte les îles de la Société pour aller aux îles Marquises qui sont beaucoup plus au nord, à 1500 km au nord de Tahiti. Et à l'époque, en bateau, c'est quand même une expédition hein, de passer de Tahiti à Ivaoa. Et à la recherche de quelque chose qu'au fond, il ne trouve pas, une sorte d'archaïsme premier, profond, lié aux éléments, lié à l'irrationnel. Et ça, il ne va pas le trouver parce que la société polynésienne, à l'époque, est une société qui a déjà été victime, si j'ose dire, entre guillemets, de l'européanisation, de l'arrivée des colons, de l'arrivée des magasins, de l'arrivée des bateaux, de l'arrivée des équipages, de l'arrivée des militaires, de l'arrivée de la gendarmerie, des juges, des impôts, etc. Et des espèces de rêves premiers qu'il avait d'une humanité première protégée, il ne la trouve pas. C'est ce pourquoi il va filer aux îles Marquises, imaginant que plus haut, plus loin, la vérité sera là.
Alors dernière question, bien sûr aux îles Marquises, il peint les Vahinées, il ne fait pas que les peindre, il a une vie, une relation avec les femmes et les jeunes femmes un peu particulière, on va dire.
Oui, alors c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2017, on peut se poser des questions. Il faut dire que il a plusieurs compagnes, ce sont des jeunes femmes qui ont entre 13 et 15, 16 ans. Alors ce n'est pas pour le défendre, mais l'état civil à l'époque n'existe pas ou quasiment. Beaucoup de gens ne parlent pas français, donc on ne sait pas exactement quel âge ont ces jeunes femmes. De surcroît, Gauguin ne sera jamais embêté, si j'ose dire, pour ces histoires-là. Autant il a des démêlés avec les juges, la gendarmerie, les missionnaires et le gouverneur, autant sur sa vie personnelle, il n'est jamais inquiété à croire que cette pratique était largement répandue. De surcroît, la sexualité, visiblement, d'après ce qu'on lit des Polynésiennes, se faisait très tôt. Aussi parce que l'espérance de vie est plus courte. Quelques exemples de contemporains de Gauguin. Rimbaud meurt à 37 ans, Victor Segalène meurt à 41 ans, lui-même va mourir à 54 ans. Les vies sont très courtes. Et donc il est normal aussi que la sexualité commence plus tôt. Et puis la reine Pomaré, je crois, à l'âge de 13 ans, était déjà remariée. C'est vous dire que tout cela, aujourd'hui, au tribunal du présent, si j'ose dire, est répréhensible, et je suis le premier à m'en alarmer, mais à l'époque, il semble que ça a été un petit peu dans les mœurs.
Une exposition donc consacrée à Gauguin actuellement au Grand Palais. Gauguin aujourd'hui, c'est l'une des valeurs sûres, sinon la valeur sûre de la peinture.
Ah, c'est plus qu'une valeur sûre, c'est un pilier fondamental de la peinture contemporaine, de la peinture européenne, de la peinture moderne, disons. La Tate Gallery, qui a fait une rétrospective il y a quelques années sur Gauguin, a battu ses records d'entrée avec Gauguin depuis la création de la Tate Gallery. Nous attendons, je dis nous, mais c'est un nous collectif, les visiteurs pour la grande rétrospective qu'il y a en ce moment au Grand Palais, on attend entre 600 000 et 900 000 visiteurs. Autant vous dire que Gauguin est rentré, non pas simplement dans le règne des grands peintres, mais dans nos imaginaires à nous. Vous et moi, quand je vous parle de Gauguin, nous avons des images. Ces images nous habitent, nous constituent, font partie de notre culture. Donc il a dépassé le rôle, le clivage de artiste par artiste. Il fait partie de notre histoire avec ses soleils et aussi quelques petits problèmes que vous évoquiez tout à l'heure.
Juste en un dernier mot, sans cet épisode polynésien, est-ce que Gauguin aurait été Gauguin ?
Non. Mais pareil pour la Bretagne. Ses séjours en Bretagne ont fait de Gauguin ce qu'il était. Et sans la Polynésie, il n'y aurait pas eu le Gauguin primitif que nous aimons. Mais vous savez qu'en 1903, à Ivaoa, il y a une lettre qu'il envoie à Daniel de Monfred où il dit qu'il veut partir en Espagne, qu'il veut rentrer, quitter la Polynésie et partir en Espagne. Et à l'époque, il a un marchand qui s'appelle Volard. Et à ce moment-là, il aurait rencontré Picasso.